Platon, La République, œuvre pour l'oral du baccalauréat. Deuxième partie du cours sur une synthèse de l'œuvre. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On va passer aujourd'hui à la deuxième partie du cours sur la République de Platon. On parlera cette fois-ci de l'œuvre La République. Les élèves qui iront à l'oral de rattrapage ne présenteront pas l'œuvre intégralement, mais il est important de pouvoir replacer pour mieux comprendre l'extrait, de pouvoir donc le replacer dans un contexte général. La République, c'est un ouvrage qui est assez long. Essayer de le résumer en 4 pages, c'était un petit peu une gageure, mais je suis pas peu, je suis plutôt contente en fait d'avoir fait ce document. Évidemment, j'ai sélectionné un certain nombre d'éléments, mais j'ai essayé de sélectionner ce qui sera ensuite le plus utile pour pouvoir expliquer l'extrait de texte, donc la fin du livre 6 et le début du livre 7. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour ouvrir le document images et les diapositives, prendre votre matériel de notes. Et on se retrouve à la page 3 ou à la diapositive numéro 3 du document. Alors, première question, de combien de livres est composée La République? 10 livres. Et ces 10 livres, en fait, c'est un découpage assez artificiel. La République, c'est un dialogue continu en fait entre les différents personnages. Donc c'est assez artificiel, mais on peut dire que du livre 1 au livre 5, on a l'introduction et le développement, la description de la Kallipolis. Kallipolis, ça veut dire belle cité en grec, donc de la cité idéale. Selon Platon. Platon, c'est le premier philosophe, le premier penseur à avoir développé une utopie. Ça, je ne vous l'avais pas donné dans le document de synthèse. Donc, un petit rappel sur l'utopie, vous en avez sûrement déjà entendu parler. L'utopie, c'est un lieu qui n'existe pas. Hein. En grec, topi, topos, ça veut dire le lieu, et u, c'est ce qui n'existe pas. Donc c'est un lieu qui n'existe pas, c'est une fiction. Mais en fait, le but de cette fiction, c'est de nous donner un modèle idéal. Et ici, donc, un modèle idéal de cité, d'organisation politique. Ça correspond bien au titre, à ce qu'on attend en fait hein, de l'œuvre de Platon, puisque quand on lit le titre, La République, on s'attend à un ouvrage de philosophie politique. Mais en réalité, La République, qui est vraiment mais un ouvrage de référence hein, dans l'histoire de la philosophie, c'est un ouvrage majeur qui a déterminé tout le reste. Donc La République, c'est bien au-delà. Ça va bien au-delà de la pure réflexion de philosophie politique. Vous allez avoir dans La République tout un tas de développements extrêmement importants sur l'art, notamment au livre 3 et au livre 10. Donc une réflexion sur l'art en lien avec la politique, avec l'exclusion des poètes de la cité, les poètes qui apparaissent comme des concurrents dangereux du philosophe est dangereux pour l'équilibre de la cité. Donc ces développements-là, ils sont vraiment fondamentaux dans toute l'histoire de la réflexion sur l'art dans la philosophie occidentale. Mais vous avez aussi, et ça nous intéresse particulièrement, donc toute une réflexion sur la connaissance. Et c'est justement ce qui se situe à la fin du livre 6 et au début du livre 7, puisque quand on parle de la cité, on parle de la politique, on parle des dirigeants, et à un moment donné se pose la question de savoir ce que c'est qu'un bon dirigeant, comment est-ce qu'on va faire pour éduquer ces bons dirigeants, et à quoi on les reconnaît. Donc ce passage-là, très important, absolument fondamental, l'allégorie de la caverne et ce qu'il y a avant, la ligne de la connaissance, s'inscrit complètement dans cette réflexion sur la politique et en même temps ça la dépasse. Regardons la question numéro 2. Dans le livre 1, alors mes questions elles vont dans le sens, hein, vous avez remarqué, dans l'ordre chronologique des livres. Donc, dans le livre 1, quel personnage fait l'éloge de l'injustice et identifie la véritable justice à la loi du plus fort? Alors, ce personnage, c'est le personnage de Trasimaque et il fait écho à un autre personnage qu'on a vu à plusieurs reprises dans les cours. C'est le personnage de Calliclès qu'on retrouve dans le Gorgias et qui défend cette même idée que finalement, il n'y a pas d'intérêt où il y a une opposition entre l'intérêt et la justice et que finalement nous sommes plus heureux à être injustes et ce qui apparaît comme de la justice est en fait une forme d'hypocrisie qui n'est pas la véritable justice. Et au livre 2, donc au début du livre 2, un autre personnage du dialogue, Glaucon. Glaucon, il se trouve que c'est le frère de Platon. Donc Glaucon va aller un petit peu plus loin et dans le sens de Trasimaque en utilisant un mythe, le mythe de l'anneau de Gygès que les STMG connaissent. Bien normalement. Le mythe de l'anneau de Gygès qui a justement pour but de montrer que les hommes ne sont pas naturellement justes. Au contraire, ils sont naturellement injustes et ils n'agissent de manière juste que par peur de la punition. Ainsi, dans le mythe, hein, Gygès, c'est un berger qui est bien sous tout rapport. Hein, et puis, il découvre un anneau. Cet anneau, il lui permet de devenir invisible. Et en devenant invisible, ben, il peut commettre tous les crimes qu'il veut sans pouvoir être puni, puisqu'il ne peut pas être pris. Hein, c'est la fameuse expression « pas vu, pas pris ». Donc, il ne peut pas être vu, il ne peut pas être pris, il peut faire ce qu'il veut et ce qu'il va faire, c'est tuer le roi, séduire la reine et devenir roi à sa place. Donc, finalement, Gygès, c'est un peu tous les hommes, s'ils étaient dans cette situation, feraient de même, agiraient dans leur intérêt. Et finalement, la justice, ça n'est qu'une espèce de vernis qui craque dès qu'on est dans une situation d'impunité. Donc la justice, ça n'est qu'une apparence, ça n'est qu'une hypocrisie, et il n'y a pas d'homme réellement juste, naturellement. Question numéro 4. Comment s'appelle la cité idéale imaginée par Socrate? Je vous l'ai déjà dit, c'est la Kallipolis, donc je ne reviens pas là-dessus. Question numéro 5. Pourquoi ne doit-on pas utiliser les fables dans l'éducation des gardiens de la cité idéale? Alors d'abord, je vais vous faire un petit topo rapide sur les trois classes dans la Kallipolis de Platon. Il y a en effet une tripartition des citoyens de la cité platonicienne qui correspond aux différentes tâches nécessaires dans une cité. Donc la première des tâches, évidemment, c'est la tâche de production, c'est la tâche économique. Vous avez dans la cité des producteurs. Donc on peut faire un petit comparatif avec la cité athénienne réelle. On a vu qu'à Athènes, il y avait des hommes libres. Les hommes libres, ce sont les citoyens qui exercent les fonctions politiques. Et vous avez les esclaves qui s'adonnent aux tâches les moins nobles, qui sont les tâches productives. Les esclaves, ce sont tout simplement ceux qui travaillent. Les esclaves, ce sont toujours les esclaves d'un despotès. Hein. Le despotès en grec, c'est l'homme libre qui est maître de maison, donc il possède des esclaves qui en général travaillent sur son domaine, c'est-à-dire en général dans les champs. Hein, mais bon. Donc voilà. Et dans les producteurs, vous avez aussi les artisans. Les artisans avec lesquels Socrate discute souvent dans ses dialogues. Les artisans, ils sont autonomes. Ça peut être des hommes libres, hein, les artisans. Et en général, ils sont dotés d'un savoir supérieur, d'un savoir-faire que les esclaves n'ont pas. Donc, pour en revenir à la Kallipolis, et ben dans la Kallipolis de Platon, il y a aussi des producteurs, artisans, agriculteurs, etc. Donc, il y a une petite hiérarchie à l'intérieur des producteurs. Et ces producteurs, c'est la classe la plus basse dans la hiérarchie platonicienne. Ensuite, au-dessus, des producteurs, vous avez les gardiens. Les gardiens, ce sont les guerriers qui sont au service de la défense de la cité, qui maintiennent l'ordre de la cité, et ceux qui ont, pour reprendre une formule de Max Weber, ce sont ceux qui ont le monopole de la violence légitime de l'État. Et évidemment, ces gardiens, ils sont très importants, et y a de longs développements sur l'éducation des gardiens dans la République de Platon, puisque, comme on l'a vu, Athènes a été un petit peu quand même traumatisée par une défaite militaire. Une défaite militaire qui peut-être n'aurait pas eu lieu si, comme à Sparte, il y avait une éducation particulière, particulièrement disciplinée, des gardiens. Et au-dessus des gardiens, donc la troisième classe, la classe supérieure, ce sont évidemment les dirigeants qui sont chez Platon, les philosophes, on en reparlera un petit peu après. À cette tripartition de la cité correspond en fait une tripartition de l'âme. Les producteurs ne sont pas producteurs par hasard dans la cité platonicienne. Il y a une forme de un peu de méritocratie hein, dans cette cité, cette Callipolis, c'est-à-dire que les producteurs, ben, ce sont ceux qui ne sont pas vraiment capables de montrer le courage et le sens du sacrifice des gardiens ou de montrer les qualités intellectuelles des dirigeants. Ce sont ceux qui sont dirigés par leurs besoins, leurs désirs et la satisfaction de ces besoins. Ça, c'est donc l'âme du producteur, dirigée par ses désirs. Ensuite, vous avez l'âme du gardien, qui est plutôt dirigée par quelque chose de compliqué à traduire, c'est le thumos, thumos. J'en reparle un petit peu après dans les questions. Voilà, mais le thumos, c'est une espèce de. C'est une colère-courage. C'est la partie. On parle souvent de la partie irascible de l'âme, c'est cette volonté animée en général par une forme de hargne et de colère, mais qui est en même temps celle qui donne du courage et qui permet aux héros guerriers de se dépasser. Et cette force, il faut la canaliser parce que elle peut évidemment être destructrice. La colère en tant que telle, si elle n'est pas canalisée, elle est problématique. Donc elle va être canalisée par quoi? Par une éducation et aussi par de bons dirigeants qui vont guider cette force des gardiens dans le bon sens. Et ensuite, évidemment, vous avez ces dirigeants qui ont le sens du bien et de la justice parce qu'ils sont dotés de qualités intellectuelles particulières qui les rend aptes à diriger, qui les rend aptes à voir le bien que les autres classes ne voient pas nécessairement. Alors là, je viens un peu d'anticiper sur la suite des questions, mais c'est pas plus mal. Et je reviens à ma question 5. Donc pourquoi ne doit-on pas utiliser les fables dans l'éducation des gardiens de la cité idéale? Alors, les fables, ici, ce sont les productions des poètes, de ceux qui font de la littérature. Et ce que Platon va reprocher aux poètes, c'est d'avoir une influence très forte sur l'âme des autres, de ceux qui lisent, et une influence qui est une mauvaise influence, car dans leurs écrits, ils vont proposer une vision de l'homme qui va devenir une vision exemplaire, un modèle pour ceux qui les lisent, pour leurs lecteurs, et qui va par conséquent devenir un mauvais exemple de comportement ou donner une mauvaise image de ce qu'est la nature humaine. Si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, on y voit souvent des dieux qui agissent de manière parfaitement criminelles quasiment parfois, ou animées par des sentiments qui sont très très loin d'être nobles, comme la jalousie. C'est quand même par exemple la jalousie d'Héra, donc de la femme de Zeus, qui est à l'origine de la guerre de Troie, par exemple, parce qu'elle n'a pas supporté que le berger Paris ne la considère pas comme la plus belle des trois déesses. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déclencher cette guerre. Voilà, donc les fables ne donnent pas du tout une bonne image de la nature humaine. Elles ne permettent pas aux hommes d'aller à l'encontre de leurs mauvais penchants, de leurs mauvais sentiments. Or, c'est le but de l'éducation, normalement, de développer les qualités, les vertus de l'homme, de développer ce qu'il y a de meilleur en l'homme et pas de développer ce qu'il y a de pire. Donc, les fables, eh bien, ce n'est pas à donner aux gardiens à lire. Question 6, on passe à la diapo numéro 4. Quelles sont les deux disciplines majeures de l'éducation des gardiens? Alors, pour développer ce qu'il y a de mieux chez les gardiens, d'abord il faut développer leur corps de manière harmonieuse, force et souplesse grâce à la gymnastique. Et il faut aussi adoucir leur partie irascible. Ils sont guidés par ce thumos qui leur donne la hargne, mais en même temps, il faut que ce thumos soit canalisé, soit cadré. Et donc, il y a tout un développement sur la musique, musique qui, chez Platon, permet à une action directe sur l'âme. Et en l'occurrence, il faut, alors, c'est pas n'importe quelle musique qu'il faut faire écouter aux gardiens, en l'occurrence, une musique, un style un peu trop nonchalant risque de les pousser vers la nonchalance. Donc, c'est une musique particulière qui est conseillée. Mais en tout cas, donc, gymnastique et musique pour la force du corps d'un côté et la force de l'âme de l'autre côté. On va passer à la question 7. Donc, alors, les dirigeants ont droit d'utiliser un noble mensonge. Ça, c'est fin du livre 3. Hein. Donc, ils ont le droit d'utiliser un noble mensonge. C'est étonnant puisque on vient justement de dire que les fables, ça n'était pas bien. Donc, ça n'était pas la c'est pas la fiction en tant que telle qui pose problème à Platon. C'est l'effet que cette fiction a sur l'âme. Et en l'occurrence, eh bien, il peut y avoir des fictions et des mensonges qui sont acceptables à partir du moment où leurs effets sur l'âme sont de bons effets. C'est en effet un petit peu particulier. Donc ici, on peut utiliser des mythes, mais uniquement si ça a un intérêt, une valeur politique et de bonnes conséquences sur la cité. Le mythe qui est le seul mensonge accepté par Platon, c'est le mythe des races métalliques, et qui sert à justifier l'existence des trois castes dont on a déjà parlé, dirigeants, gardiens, producteurs, et de justifier donc la fonction sociale de chacune de ces classes au sein de la Kallipolis. Les dirigeants ont une âme d'or, car les désirs et la volonté irascibles sont dirigés par la raison. Les âmes d'argent, c'est-à-dire les âmes des gardiens, sont dirigées par la volonté irascible, le thumos, et les races de bronze et de fer sont dirigées par les désirs et besoins. Au livre 4 et au livre 5, on va avoir de grands développements beaucoup plus précis sur les gardiens, le mode de vie des gardiens. La question que je vous pose, donc la question 8, au livre 4, quel est le régime de propriété imposé aux gardiens? C'est le communisme. Alors, communisme au sens extrêmement large, hein, quand on parle d'un communisme, c'est qu'il s'agit de mettre en commun des biens. Le communisme de la terre, c'est le fait que la terre appartienne à tous et que n'importe qui puisse cultiver n'importe quoi sur un morceau de terre. C'est le contraire de la propriété privée de la terre. Voilà. Donc, le communisme, c'est la mise en commun des biens, et en l'occurrence, les gardiens n'auront rien qui leur sera propre en termes de richesse, et on le verra plus tard, ils n'auront même pas de famille qui leur sera propre. Ils n'auront pas de femme, oui, ils n'auront pas d'enfants. Les enfants seront communs et seront élevés en commun dans la cité platonicienne. Alors pourquoi ça? C'est extrêmement autoritaire, hein, notamment du point de vue de la famille. Quel est le but? Eh bien, c'est que surtout les gardiens, ils ont un dévouement à avoir envers la cité, et pour pouvoir se dévouer pleinement à la cité, il faut qu'ils ne soient pas parasités par leur intérêt personnel. Question 9. Pourquoi la cité idéale est-elle bien une cité juste? Qu'est-ce qui fait la justice? Quel est le sens du terme justice qu'on cherche en fait depuis le départ, hein? C'est vraiment la première question de la République. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un de juste? Et c'est cette réflexion qui a amené Socrate sur le terrain de la politique. Et définir ce que c'est qu'une âme juste, ça passe par la définition de ce qu'est une cité juste dans la République de Platon. Donc la cité, elle est juste parce que chacun reste à sa place. Chacun reste à la place qui doit être la sienne. Et c'est ça qui produit l'harmonie et l'ordre dans la cité, c'est-à-dire que ceux qui doivent être producteurs sont producteurs, ceux qui doivent diriger sont dirigeants, et personne n'empiète sur le territoire des autres, et ceux qui sont faits pour être producteurs ne cherchent pas à diriger, ils restent à leur place. Une cité juste, c'est une cité ordonnée, harmonieuse, qui est hiérarchisée, et cette hiérarchie, elle est justifiée par les qualités individuelles de chaque membre de la cité. La question 10, en fait, j'y ai déjà répondu. Quelles sont les trois parties de l'âme auxquelles correspondent les trois classes de la cité idéale? Donc la raison, les dirigeants, la partie irascible, les gardiens, les désirs, besoins, les producteurs, artisans. On passe rapidement à la question 11. Que fait Socrate de la famille dans la cité idéale? Pour quelles raisons? Alors ça aussi, j'ai déjà répondu en fait. Il abolit cette famille. Il détruit la famille. Alors attention, c'est pour les gardiens, hein, essentiellement, dans le cadre du communisme propre aux richesses et donc aussi aux familles des gardiens. Parce que l'attachement à la famille peut entrer en contradiction avec le dévouement que le gardien doit avoir pour sa cité. C'est le problème de la tension entre amour filial et patriotisme. Si vous regardez bien, il y a beaucoup de fiction, des séries. Je pense par exemple, bah, le Bureau des légendes que vous avez peut-être vu, qui est une très bonne série française d'espionnage. L'intrigue de base repose sur justement cet agent secret qui a désobéi au règlement, qui consistait à ne surtout pas s'attacher quand il était en mission sur le terrain. Et donc, il s'est attaché et donc ça a mis en péril sa mission. Et vous avez énormément de films comme ça ou de séries qui reposent sur cette tension entre les amours ou les attachements personnels et l'attachement qu'on doit avoir envers sa patrie quand on a certaines fonctions. Donc, comment abolit-on la famille? Eh bien, tout simplement en évitant l'attachement exclusif, le mariage n'existera pas pour les gardiens, et de la même manière, les enfants seront élevés en commun et n'auront pas de parents définis. On va passer à présent à la deuxième partie, livre 6 à 10. Alors, on va passer très vite sur livre 6 et début du livre 7, puisque ce sera l'objet des prochains cours beaucoup plus précisément. 13, question 13. Au livre 6, pour expliquer les différents stades de la connaissance humaine, Socrate utilise l'image d'une ligne. Cette ligne est divisée en deux premiers segments. À quel type de connaissance correspondent-ils? Donc, le premier segment. Donc on divise d'abord en deux, hein, la ligne, c'est l'opinion, et le deuxième, c'est la science. On verra ça plus précisément plus tard, donc je n'épilogue pas. 14, donc le premier segment, c'est-à-dire l'opinion, est lui-même divisé en deux segments. Ces deux segments, ce sont l'imagination et la croyance. Là, on est dans le monde sensible et la connaissance qui passe par les sens et la sensation. Donc, une qui passe par les images des choses et une qui correspond aux croyances qu'on a sur les choses quand on en fait l'expérience directe. Enfin, donc, ensuite, pardon. Question 15. Le deuxième segment est lui-même divisé en deux segments. À quel type de connaissances correspondent-ils? Eh bien, donc, dans ce deuxième segment, grand segment qui est le segment de la science et qui correspond au monde intelligible. Le premier sous-segment, c'est la raison discursive et le deuxième, c'est l'intelligence dialectique. Encore une fois, on verra ça beaucoup plus précisément plus tard. Question 16. Au livre 7, quel mythe platonicien célèbre vient représenter de manière concrète et imagée cette théorie de la connaissance? C'est évidemment l'allégorie de la caverne. Question 17. Au livre 8, Socrate établit une hiérarchie des régimes politiques imparfaits. Donc, par comparaison à la cité idéale, hein, la Kallipolis, qu'on a bien décrit, après les livres 6 et 7 qui sont un intermède sur la connaissance, en fait, on va avoir un propos sur les différents types de régimes imparfaits existant réellement, sachant que notre Kallipolis est une utopie, donc qui n'existe pas réellement. La démocratie est un régime qui apparaît particulièrement défaillant aux yeux de Socrate. En effet, il y a quatre régimes qui sont classés. La timocratie, où les gardiens dirigent, l'oligarchie, où ce sont en gros les plus riches hein, qui dirigent. Et ensuite, vous avez la démocratie. Et le dernier gouvernement qui est le pire, c'est la tyrannie. Donc, pourquoi est-ce que la démocratie est un régime défaillant? C'est toujours une question de qui dirige, en fait. Est-ce que c'est la bonne personne qui dirige? Et là, en l'occurrence, dans la démocratie, c'est le peuple des producteurs qui, comme on l'a vu, est guidé par pas par la raison, mais par la satisfaction des désirs et besoins personnels qui dirigent. Et par conséquent, ça ne peut pas être un bon régime. Et on passe au pire régime par la suite, donc avec la question 18. Pourquoi l'homme tyrannique n'est-il ni libre ni heureux? Alors ça implique de définir un petit peu ce que c'est que la tyrannie. La tyrannie, c'est un régime où une personne dirige, mais cette personne n'a absolument pas les compétences pour diriger, contrairement à la Kallipolis, où ce sont les philosophes qui dirigent parce qu'ils en ont les compétences. Ici, le tyran, c'est celui qui dirige de manière arbitraire, non pas guidé par le bien et la justice, mais guidé par ses intérêts personnels. Donc le tyran n'est pas libre et il n'est pas heureux non plus, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et c'est une forme de réponse à Thrasymaque ou à Glaucon, qui défendait l'idée que finalement les gens injustes étaient les plus heureux. Donc en fait le tyran il n'est pas libre parce qu'il est l'esclave de ses désirs et que les désirs, eh bien premièrement ils ont tendance à se renouveler, mais ils ont surtout tendance à être finalement facteur d'insatisfaction, notamment quand ils ne sont pas cohérents entre eux, quand ils s'opposent. Et donc ça va être source de troubles dans l'âme du tyran et finalement source de troubles dans la société également. On va passer à la question 19, diapo numéro 8. Au livre 10, qui sont les concurrents des philosophes qu'il faut exclure de la cité idéale et pourquoi? Déjà dit, donc ce sont les poètes. Ils concurrencent les philosophes rois et influencent les citoyens de manière négative parce que, comme on l'a dit, ils encouragent leurs plus mauvais penchants et leurs plus mauvais sentiments. Je ne reviens pas là-dessus. Et enfin, le dernier mythe qui conclut la République, c'est le mythe d'Ère. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est le deuxième mythe, hein. Enfin, non, c'est le troisième. Vous avez un premier mythe, le mythe de Gigès, qui est un mythe rapporté par Glaucon, Vous avez, et donc c'est un mauvais mythe, c'est un l'exemple du mythe qui donne une mauvaise image de la nature humaine. Donc c'est le contre-exemple, c'est la mauvaise fable, le mythe de Gigès. Ensuite, vous avez le bon mythe, qui est le mythe des races métalliques. C'est celui qui est bon pour la cité. Vous avez l'allégorie de la caverne, qui n'est pas à proprement parler un mythe, mais qui est une fiction. Qui est aussi une fiction utile et pédagogique, qui permet de mieux faire comprendre une théorie abstraite. Et vous avez enfin, alors même que Socrate vient de critiquer encore une fois les poètes, il vient de les exclure de la cité, eh bien il utilise lui-même un mythe, mais encore une fois c'est un bon mythe, c'est celui qui conclut la République. Il sert à donner, non pas un bon exemple, mais de donner une motivation supplémentaire à ceux qui n'ont pas été convaincus jusque-là d'adopter un bon mode de vie, un mode de vie juste. Bon, je n'insiste pas sur ce mythe, ça n'est pas forcément extrêmement utile pour la suite. Donc, dans les prochains épisodes de ce cours, on va revenir sur la fin du livre 6 et le livre 7. Qui concerne plus particulièrement donc les élèves qui devront aller à l'oral de rattrapage.